Chapitre 23, la momie. Quand Bull expliqua ce qu'était un pique-nique, Gus eut un moment de panique. D'un côté, il ne se voyait pas autorisant sa fille à sortir des limites de la prison. D'un autre, il refusait de faire échouer la méthode Bull qui avait déjà prouvé son efficacité. « Je vais vous trouver une jolie petite cellule vide. Vous ferez votre pique-nique au chaud. »« Non, » dit Bull. J'emmène Bernick dehors. Les amis normaux pique-niquent dehors. C'était impossible. Gus ne pouvait pas laisser partir sa Bernick avec une fille de 12 ans qui, une semaine auparavant, lui était encore inconnue. Le pique-nique était prévu le surlendemain, la veille de l'exécution des Lolness, à laquelle Joe Mitch venait assister. Il ne pouvait pas prendre un tel risque à ce moment crucial. Bull attendait la réponse, impénétrable. Elle ne quittait pas des yeux le directeur. On avait l'impression qu'elle lisait à livre ouvert dans les pensées de cet homme. Elle sentait qu'il doutait. Elle vit même ce doute se creuser lentement. Gus se demandait tout à coup comment il avait pu mettre sa confiance dans cette petite. Qu'est-ce qu'il savait de cette Bull? Rien. Absolument rien. Il était encore temps de tout arrêter. Bull sentit venir le moment où il allait la renvoyer. Il fallait agir, vite. Elle eut alors une idée terrible. Un prisonnier était en train de cirer le parquet du bureau du directeur. À quatre pattes sur le sol, exténué, il passait le chiffon à proximité de l'endroit où Bull se tenait. Il avait les genoux écorchés à force de se traîner sur le sol. C'était un homme au regard triste, un de ces prisonniers qui n'ont jamais compris pourquoi ils ont atterri là. Ils vivaient tranquillement chez eux, on est venu les chercher un matin, on les a jetés dans un cachot. Quand ils demandent ce qu'ils ont fait, on leur répond « secret d'État ». Bull, avec une fausse discrétion, recula vers le prisonnier. À petits pas, innocent, elle s'en approchait. Gus avait remarqué ce manège qu'il surveillait d'un œil. Oui, cette fille l'inquiétait. Quelles étaient ses intentions? Alors, d'un coup de talon violent, elle écrasa la main du serreur de parquet. Ce simple acte de cruauté vint réchauffer le cœur du directeur. Elle était bien l'une des leurs. Une fille qui agissait ainsi ne pouvait pas être complètement mauvaise. Il éclata d'un rire complice et renvoya dans sa cellule le prisonnier qui gémissait. Bull ne bougeait pas. Elle avait seulement autour des yeux un fin liseré rouge. On sentait qu'au fond d'elle, la plainte de ce prisonnier laissait comme une crevasse. Bull crut qu'elle allait défaillir. « C'est d'accord, » lui lança Gus. Elle chercha à mettre dans sa voix toute la fermeté qui lui restait pour demander qu'on leur prépare un panier de pique-nique. Elle précisa le contenu du panier idéal. Rillettes de lépidoptère, éclairs au miel, sans oublier le torchon à carreaux rouges et blancs qui devait le recouvrir. S'il manque une seule chose, ce ne sera pas un vrai pique-nique, menaça-t-elle en passant la porte pour la dernière fois. Elle arriva à 10 h du matin le 30 avril. Devant l'entrée de Tomble, la petite Bernick l'attendait avec son panier, sa robe de dentelle et le chapeau de paille réglementaire. Derrière elle, 9 gardes du corps avaient le même panier et le même chapeau de paille. Bull ne se mit pas en colère. Elle appela Gus et lui demanda ce qu'il comptait faire de ces bonhommes. « Ils ne vous dérangeront pas, c'est pour la sécurité. » Après bien des négociations, elle fit réduire l'équipe à 2 gardiens. Elle eut même la possibilité de les choisir. Bull ne prit forcément pas les plus éveillés. L'un avait les cheveux qui lui tombaient devant les yeux comme un rideau. Il s'appelait Minet. L'autre s'appelait Poulpe. Il avait une bouche plus étalée qu'une ventouse et des petits yeux en cul de mouche. Lui s'alzant, les regarda partir tous les 4. Bernick donnait la main à son ami. Il y a quelques jours, cette main qu'elle tenait Bernic ne l'aurait pas lâché sans l'écraser ou en ôter quelques ongles. Maintenant, la petite fille semblait sortir d'une vieille gravure, avec son chapeau de paille et son ombrelle. Gus couvait des yeux sa jeune princesse qui s'éloignait. Ce tableau champêtre ne demeura pourtant pas longtemps le plus beau souvenir de Gus Alzan. À 6 heures de l'après-midi, on l'avertit que quelqu'un demandait à lui parler. C'était Poulpe, tout seul, en éclaireur, la ventouse tombante, mort de fatigue. Il y a eu un petit problème. « Bernic !» cria Gus. « Elle s'est fait un peu mal, juste un peu. » Gus crut qu'il allait l'enfoncer tel un clou dans l'écorce. Comme vidé de son sang, Gus n'arrivait pas à dire autre chose que « Bernic ! Bernic !»« Elle est là-bas, on la répare, » dit Poulpe. Gus Alzan ne pouvait plus respirer. « On la quoi ?»« On la répare, elle s'est fait un peu mal. » « Où ?»« Partout. » Poulpe aurait eu du mal à faire une liste précise de ce qu'elle avait de cassé. Gus s'époumonna. « Mais elle est où ?»« Près d'un lac. » Poulpe se garda bien de lui raconter ce qui était arrivé. Il fit semblant de s'évanouir. Gus lui donna quelques généreuses baffes, mais Poulpe se laissait malmener, faisant voler de gauche à droite sa bouche en forme de ventouse. Il préférait ses coups à ceux qu'il aurait reçus si le directeur avait su ce qu'il venait de faire de sa fille. Ils étaient arrivés au lac vers 1 heure. Bernic s'était effondré de fatigue. Elle n'était jamais sortie de tombe et ses jambes très courtes n'avaient aucune expérience de la marche. En 3 heures, ses pieds avaient gonflé comme des soufflés. Ses orteils ressemblaient à des boudins de larves qui lui firent exploser les chaussures. Pendant qu'elle dormait sur la plage, Bulle et les deux gardiens dévorèrent le pique-nique. Poulpe et Minet avaient un appétit de charançon. Ils découvraient l'art du pique-nique. Au dessert, ils grignotèrent les paniers comme des bretzels, et une fois mouchés dans la nappe à carreaux, ils se mirent à bâiller. Bulle leur conseilla une sieste. Poulpe et Minet commencèrent par refuser, mais, constatant le profond sommeil de Bernic, ils cédèrent à leur tour. Bulle les accompagna jusqu'à une grotte obscure dont la fraîcheur était propice à la sieste. Elle leur promit que personne ne ferait de mal à Bernic avant qu'elle les rejoigne. Les deux gardiens s'endormirent paisiblement, la peau du ventre bien tendue. Ils furent réveillés par des coups dans l'obscurité, ou plutôt des coups sur leur tête. Quelqu'un était en train de les assommer à grande beigne de gourdin. Quelqu'un de qualifié, qui maniait ce gourdin avec une sobre efficacité, répartissant les bosses symétriquement entre les deux crânes. Un vrai petit maître. Poulpe et Minet n'admirèrent pas longtemps son talent. Au bout de quelques secondes, ils étaient debout et donnaient la correction du siècle au manieur du gourdin. Ce qui était étrange, c'est qu'un agresseur de cette trempe semblait désarmé par la riposte, comme s'il s'était battu toute sa vie contre des poupées inertes. Quand ils furent assurés de ne laisser qu'un petit ados dans un sac de peau, les deux gardes du corps s'arrêtèrent. Bulle surgit à ce moment-là avec une torche. « Pourquoi avez-vous fait ça ? » demanda-t-elle. « Ben quoi ? » dit Minet. « On se défend ? » continua Poulpe. « Qu'est-ce qu'on va dire au directeur ?» demanda Bulle. « Ben quoi ?» dit Minet. « Elle est où, Bernic ?» s'inquiéta Poulpe. « Elle est là. » Bulle approcha la torche du sol et éclaira ce qui restait de Bernic. Poulpe fit un bruit bizarre avec la bouche, et Minet, écartant ses cheveux, montra pour la première fois ses yeux. Il louchait atrocement. « C'est nous qui l'a assommé ?» dit-il. Bulle paraissait très ennuyé. « Je vous avais promis que personne ne lui ferait du mal avant qu'elle vous rejoigne. Mais je ne pensais pas que vous... » À peine 1 heure après le retour de Poulpe dans la prison de Tombles, un drôle d'équipage arriva devant la porte. C'était un brancard de brindilles porté à l'avant par Minet et à l'arrière par Bulle. Sur ce brancard, il y avait un objet curieux, comme une statue de cire couchée. Dussalzan se précipita vers Bulle. « Bernic ! Où est Bernic ?» Bulle, d'un mouvement du menton, indiqua le brancard. « Elle est là ?» Gus se pencha sur la forme blanche qui gisait là. Il pâlissait. « Quoi ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Poulpe était apparu derrière Gus. Avec Minet, ils étaient en train de faire tous les clins d'yeux possibles à Bulle pour qu'elle ne dise pas la vérité. Mais avec les yeux en tête d'épingle de l'un et la mèche rideau de l'autre, il était impossible de soupçonner leurs grossiers signaux. Bulle resta très vague. Elle est tombée. Elle a désobéi et elle est tombée au fond d'un trou. Minet et Poulpe se détendirent. « Mais où elle est ?» hurla le pauvre père. « Dans la coquille de cire. Il n'y avait pas d'autre moyen pour la réparer. Il faut l'immobiliser 30 jours dans cette coquille. J'ai trouvé une éleveuse de cochenilles qui a bien voulu couler Bernic dans la cire. Il faut que les os se ressoudent et que les organes reviennent à leur place. Va vous rendre une Bernic toute neuve, ajouta maladroitement Poulpe, qui reçut immédiatement le poing de Gus sur sa grosse bouche rebondie. Soulagé d'avoir frappé, Gus détacha sa main de la ventouse et approcha de la forme en cire. Il reconnaissait maintenant la place de la tête, des bras et des jambes. C'était comme une étoile de cire blanche.
Un mois !
Mais comment va-t-elle manger ? Il y a des tubes aux bons endroits. C'est étudié pour. Il faut mettre de la purée d'aubier dans ce tube-là, 3 fois par jour. Gus alla vers ce qui devait être la tête. Très doucement, il fit toc-toc avec le doigt, obtenant pour seule réponse un petit mouvement dans la coquille. Il se mit à pleurer. On fit franchir la porte de tombe à la bernique des cires, à Minet et à Poulpe. Mais quand Bulle voulut entrer, Gus se retourna violemment vers elle. « Toi, va au diable ! Ne remets plus les pieds ici !» Bulle resta déconcerté. Pour la première fois, un signe de trouble se lisait sur son visage. Elle dit « Mais je dois m'occuper d'elle. Disparais de ma vue !» Bulle paraissait vraiment secouée. Elle insista. « Laissez-moi juste une nuit de plus. Vous savez que Bernic... » Bulle allait le convaincre. Il suffisait qu'elle ajoute quelques phrases. Mais Dussalzan avait déjà crié « Qu'on la jette dehors !» Une quinzaine de gardes se précipitèrent pour l'empêcher de passer. Ils la repoussèrent à l'extérieur de la porte d'entrée. Elle ne criait plus assez fort pour que Gus puisse l'entendre. Trop tard. En un éclair, Bulle était redevenue Elisha et grelottait d'angoisse. Elle ignorait que le soir même, Minet et Poulpe seraient livrés aux oiseaux sur une boule de gui. Son sort à elle était loin d'être le plus sinistre. Pourtant, quand le brancard disparut au sein de la prison de Tombes, elle se retourna, le visage livide, le cœur chahuté, et s'éloigna en courant. Qui n'a jamais passé une heure dans un sarcophage de cire ne peut imaginer combien Toby avait chaud. Il entendait à peine les voix autour de lui. Il s'était senti secoué dans sa coquille, mais avait maintenant l'impression que plus rien ne bougeait. Il devait être dans la chambre de Bernic. Encore quelques bruits, un vague pas qui s'éloignait, et le silence revint. Il pensait à Elisha qui devait attendre juste à côté de lui, le moment idéal. Elle le préviendrait par 5 coulants sur la cire. C'était leur code. À eux deux, ils feraient éclater la coquille. L'évasion commençait là, en plein cœur de tombe. Le temps passa. La chaleur devenait suffocante. Soudain, des pas assourdis firent vibrer la cire. Quelqu'un entrait dans la chambre. Il entendit un bruit d'aspiration sifflante et reçut une matière chaude qui lui arrivait directement dans la bouche. De la purée. On lui donnait à manger. Il prit tout ce qu'on lui offrait. Il n'avait pas le choix. Ce qu'il n'avalerait pas rentrerait dans son col et avec la chaleur, transformerait la coquille en cloaque. Heureusement, Le gavage s'arrêta à temps. Nouveau bruit. Puis le silence revint. Encore une fois, Toby pensa à Elisha, si près de lui. Elle avait bravé tous les risques, défié la chance. Depuis une semaine, Toby se laissait porter par l'intuition d'Elisha. Pendant les premiers jours, elle avait tourné autour de la prison pour trouver l'angle d'attaque. Sa première chance, la rencontre avec Patate qui lui parla du cas Bernick. Le plan d'Elisha ne tarda pas à éclore derrière son petit front têtu. Toby refusa d'abord catégoriquement qu'elle se fasse engager dans la prison. Elle ne pouvait affronter seule tous les dangers pour sauver des parents qui n'étaient même pas les siens et qu'elle n'avait jamais vus. Elisha défendit son projet avec passion. L'occasion était trop belle, il fallait la saisir. Toby et Elisha ne fonctionnaient pas de la même manière. Toby réfléchissait beaucoup, retournait les situations en tous sens, organisait ses plans. Il prenait des risques, mais il avait toujours en bouée de sauvetage une panoplie de solutions. Elisha, au contraire, saisissait les occasions sans trop réfléchir et se jetait à l'eau toute nue comme d'habitude. Quand elle se trouva face à Bernick, les gestes suivirent naturellement. Elisha ne lui jeta même pas un coup d'œil et se dirigea vers l'angle opposé. Elle passa la première journée dans son coin à fabriquer un petit personnage en bois. Un simple petit bonhomme de la taille de son pouce. Après quelques instants, Bernick ne résista pas à cette indifférence. Elle ramassa une massue qui traînait dans ses jouets et finit par s'approcher. Elisha ne fit même pas le moindre mouvement, mais elle dit paisiblement « Je connais des têtes où il n'y aura jamais une seule bosse. » Cette phrase mit Bernick dans tous ses états. Il se fit d'abord tomber la massue sur le pied et grogna « Où ?»« Chez moi, » répondit Elisha. Bernick poussa un mugissement, brandissant le gourdin prêt à écraser la tête d'Elisha et celle du bonhomme en bois. Elisha réussit à murmurer juste à temps. « Je t'y emmènerai, si tu ne me tapes pas tout de suite. » Bernick s'arrêta. « Si tu n'assommes personne pendant 6 jours, je te montrerai les têtes sans bosse. » Ainsi commença le dressage de Bernick. Un simple petit chantage. Le surlendemain, le 26, Elisha lui répéta la même consigne, mais le soir, en partant, elle laissa le petit bonhomme en bois dans un coin. Quand elle revint le 28, Elisha trouva le bonhomme éparpillé en 1000 morceaux. Il demanda à Bernick « Tu as frappé le bonhomme ?»«
C'est qui ?»«
Le bonhomme ?»«
C'est quoi son nom ?»
répéta Bernick. Elisha hésita et se laissa surprendre par le nom qui lui échappa.
« Lolness » articula-t-elle.
« Il s'appelait Lolness. »
Pourquoi avait-elle dit son nom ?
Elle n'en avait aucune idée. C'était comme cela. Les gestes et les mots venaient avant les pensées, mais ils indiquaient toujours le chemin à prendre.
« Lolness !» répéta Bernick.
Le soir même, Elisha alla se plaindre auprès de Gus Alzan. Bernick avait assommé Lolness en son absence. Elle parvint ainsi à savoir le lieu exact où les Lolness étaient tenus captifs. Elle put même les voir. Elle qui ne les avait finalement jamais croisés. Enfin, il eut l'idée du pique-nique. Pour obtenir l'autorisation du directeur, Elisha accomplit le pire acte de sa vie. Elle écrasa la main d'un innocent. Dégoûtée de la barbarie de ce geste, elle se forçait à penser aux parents de Toby, à ses vies qu'elle allait sauver. Oui, c'était une question de vie ou de mort. Mais jusqu'où peut-on aller pour sauver quelqu'un? La nuit suivante, cette question la réveilla souvent quand elle essayait de dormir. Bernick, en quittant Tomble dans sa robe de dentelle, avait au cœur la joie d'imaginer 1000 bosses sur les crânes neufs qu'on lui avait promis. Elle avait supporté la marche dans l'espoir de cette récompense. Il n'en restait, après la sieste de Bernick, qu'à la conduire jusqu'à la grotte, lui livrer dans l'obscurité les crânes de ses gardiens, puis la conduire, assommée à son tour, vers Ishali, qui l'immobiliserait dans la cire. Écartant les gardiens par pudeur pour cette demoiselle, on glissait Toby dans la coquille à la place de Bernic, et le plan était bouclé.
Oui, bouclé, se dit ironiquement Toby qui respirait de plus en plus mal.
Il pensa à la petite Bernic qui devait attendre dans une autre enveloppe de cire, là-bas, dans la cabane aux cochenilles. La mère d'Elisha allait très bien s'occuper d'elle. On avait dû la mettre dans une coquille échancrée à la hauteur du visage, ce qui était beaucoup plus confortable.
Que faisait Elisha?
Toby n'en pouvait plus. Il attendait les 5 coups, enfermé dans son boîtier de cire. Il ne percevait plus le moindre son autour de lui. La nuit devait être tombée. Il se sentait seul, tout d'un coup, abandonné. Et pourtant, il n'y avait pas un instant à perdre. Le lendemain, à l'aube, ses parents seraient tués.
Elisha, pourquoi ne donnait-elle pas le signal?
Toby perdit patience. Il se mit à se contorsionner dans la cire pour la faire craquer. Tant pis, il ne tenait plus. Il devait risquer une sortie. Dès son premier mouvement, il comprit à quel piège il était pris. Il se démenait autant qu'il pouvait, mais la cuirasse de cire ne bougeait pas d'un pouce. Toby avait connu la grotte du lac, mais ce cercueil-ci était bien pire. Il ne pouvait même pas se retourner. Il allait rester là, impuissant, pendant que ses parents passeraient sur l'échafaud. Mourir de chagrin, à petit feu, pendant 1 mois, abreuvé de purée tiède, noyé dans ses larmes. Petit Toby vivant, rôti en croûte de cire. Il était peut-être 1 minuit. Sim et Maya Lolness devaient croupir dans leur geôle à quelques centimètres de là, comptant les heures avant la mort. Et dans 1 mois, quand on le sortirait de sa coque puante, Toby le rejoindrait sûrement, victime du même châtiment.
« Elisha, Elisha !»
Toby criait maintenant du fond de sa boîte. Il aurait bien tambouriné avec ses poings, mais il n'avait même pas de poings, puisque ses mains avaient été prises dans la cire en position ouverte. Ses pensées devenaient de plus en plus désordonnées. Son cœur s'emballait. Les questions le bousculaient comme dans un cauchemar.
Pourquoi la mort? Pourquoi? Je veux sortir de là, quitter l'arbre, trouver un monde meilleur. Où vont les bâtons qu'on jette au bout d'une branche? Je veux retrouver mes poings, mes forces, mes poings. Où vont mes poings quand les doigts se tendent? Elisha, dans quel camp tu es si tu m'abandonnes? Et Léo, pourquoi les amis ne sont pas là pour la vie?
Rien ne pouvait arrêter cette spirale infernale.
Rien?
Il entendit un premier petit coup, puis un second. On frappait tout doucement sur son cercueil.